Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Cube Radio.
Sophie Durocher.
Mon nom est Sophie Durocher.
Sophie Durocher.
Des opinions éclairantes qui font la différence.
Cube Radio.
Bonjour tout le monde, c'est Sophie. Bon mercredi. Écoutez, je vous ai parlé régulièrement à cette émission de tout le bien, non, c'était ironique, de tout le mal que je pense de la monarchie, une institution désuète. Alors quand j'ai vu ce matin dans mon journal un sondage qui nous dit que les Canadiens sont de plus en plus nombreux à souhaiter voir la monarchie aboli, un sentiment qui est encore plus prononcé au Québec et dans les autres provinces. Il y a seulement 18% des Québécois qui sont encore attachés à la monarchie. J'ai poussé un très joyeux, mais voyons donc!
Sophie Durocher.
Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio. De la culture aux affaires publiques.
Vous écoutez
Sophie Durocher,
Cube Radio.
Jean-François Lisée a écrit tout récemment dans Le Devoir un texte qui fait beaucoup, beaucoup jaser. Tous esclavagistes, pardon, vous pouvez trouver une version longue de ce texte sur son site, laboîtealisée.com. Jean-François, qui est donc aussi ancien chef du Parti québécois et auteur récemment de Guerre froide PQ sur les espions étrangers au Québec. Jean-François, bonjour.
Bonjour Sophie.
Une longue introduction, mais c'est vrai que ce texte-là a beaucoup fait jaser, entre autres parce que dans ce texte-là, tu dis ben à peu près tout le monde qui marche dans les rues à Montréal ou à Québec a soit un passé d'esclave ou un passé esclavagiste. C'est-à-dire que nos ancêtres ont soit été du bord des esclavagistes ou du bord des esclaves. C'est assez surprenant comme déclaration. Tu te bases sur quoi pour dire ça?
Et probablement les deux. Probablement
oui, peut-être, oui.
Oui, oui. Oui, probablement, parce que le monde, la planète, le genre humain est esclavagiste depuis le néolithique. Ça fait 8000 ans. Alors, en Chine, en Inde, dans le monde arabo-musulman, évidemment, l'Empire romain, chez les Grecs, les Africains faisaient de l'esclavage entre eux et avec les Européens. Évidemment, les sudistes américains, les Britanniques, les Portugais, les Français, les Premières Nations étaient esclavagistes. Lorsque les Français sont arrivés ici, ils sont arrivés sur un continent esclavagiste. Avec une histoire du genre humain où l'esclavage était la norme, On est tous des descendants d'esclaves et d'esclavagistes. Et d'ailleurs, il y a des cas où des enfants ou des petits-enfants d'esclaves deviennent esclavagistes aussi. Alors, ce n'est pas pour mettre en doute le caractère répugnant de l'esclavage.
Mais au contraire.
C'est lorsqu'on se dit, bon, ben, écoutez, qui devrait s'excuser de quoi? Ben, on devrait tous s'arrêter sur la rue et se mettre à s'excuser les uns les autres, si c'est ce dont on veut parler,
oui.
Parce que c'était très répandu comme pratique.
Mais ce qui est intéressant dans ta perspective, et c'est pour ça que ce texte a autant fait jaser et que je l'ai autant vu passer sur mes médias sociaux, c'est que on sort du schéma l'esclavage était l'apanage ou l'exclusivité, le monopole des méchants blancs envers les gentils noirs. Tu montres à quel point c'était quelque chose d'universel, ce qui fait que on peut pas aujourd'hui dire, quand on parle de décolonialisme et tout ça, il faudrait décolonialiser l'ensemble de l'humanité, en fait.
Mais en fait, c'est le processus dans lequel on est depuis 200 ans, c'est-à-dire sortir de l'esclavage. Une des grandes réalisations de la civilisation depuis 200 ans, c'est sa sortie de l'esclavage. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on peut se mettre à comparer et dire ben, où est-ce que ça a eu le plus d'impact? Et on ne peut pas nier que aux États-Unis, où l'esclavage s'est arrêté en 1760, mais dans les faits, La ségrégation s'est poursuivie jusqu'en 1960. J'ai dit 1860, donc la fin de l'esclavage, la proclamation d'émancipation, mais la ségrégation a continué, donc une forme...
100 ans, oui.
Donc 100 ans de plus, donc jusqu'en 1960, en fait, on peut vraiment poser la question, quel était l'impact de l'esclavage dans l'organisation de la société, dans la création de richesses, et est-ce qu'aujourd'hui, on est encore... Dans la queue de comète, c'est-à-dire est-ce qu'il y a encore dans la structure de l'économie américaine des rémanences de ça? C'est une vraie question, c'est un vrai débat. Maintenant, si on regarde du côté québécois, on se rend compte, puis bon, moi, ce que j'ai fait, là, je veux dire, ma démarche là-dedans, Sophie, oui. C'est que bon, j'ai quand même 63 ans, j'ai lu sur l'histoire du Québec, j'avais rien lu sur l'esclavage. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de livres qui ont été publiés depuis le 18e siècle qu'on écrit sur l'esclavage au Québec. Mais en tout cas, c'était pas dans mes cours d'histoire du Québec, dans mes lectures, c'était pas là. Depuis quelques années, les militants noirs disent « ben c'est important l'esclavage au Québec ». Et je me suis dit, pour le mois de l'histoire des Noirs, je dis « bon, ok, d'accord, je vais me pencher là-dessus, je vais lire les livres qui sont là-dessus avec... » sans aucune prédisposition d'esprit. Tu sais, c'était,
oui, tout à fait. C'était par curiosité, voilà. Par intérêt intellectuel, oui.
C'est ça. Ça manquait à ma culture. Alors, j'ai dit, OK, dites-moi, tu sais, j'étais prêt à toutes les cruautés. J'ai dit, dites-moi ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, jusqu'où ça s'est passé. Et on se rend compte que, bon, effectivement, donc il y a eu de l'esclavage en Nouvelle-France puis dans le Bas-Canada. C'était relativement répandu. Première grande surprise, c'est que les deux tiers des esclaves étaient des autochtones.
Mm-hmm.
Ce qui nous renvoie à la traite esclavagiste autochtone qui préexistait, et où là, il y avait de la vraie cruauté. C'était des prisonniers de guerre qui étaient pris pour remplacer dont les pertes dans les guerres autochtones. Très grande humiliation, torture, mais ensuite assimilation des survivants dans la nation autochtone. Donc, l'esclavage pour les autochtones n'était pas héréditaire, contrairement aux sudistes américains, par exemple. Mais les autochtones faisaient la traite, ils vendaient ils les vendaient aux Français. Et donc ça, c'est la première surprise, c'est l'existence de cette traite autochtone et du fait que la majorité des esclaves en Nouvelle-France et dans le Bas-Canada étaient des autochtones. D'ailleurs, un des premiers Noirs vendus en esclavage au Québec l'est par un autochtone.
Oui, tu racontes très bien tout ça. Oui, c'est ça, puis c'est documenté. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Donc ça, c'est ta première surprise. Ta deuxième surprise, c'est quoi? Ou ta deuxième information que tu as colligée en lisant tous ces livres?
Bon, alors Marcel Trudel, donc deux siècles d'esclavage au Québec. Frank McKay, sur les Noirs, sous le Bas-Canada, qui est un... Puis là, faut dire, là, ils ont tout lu, là. Ils ont regardé toute la presse. Oui. Les rapports de police, ce qu'il y avait, ils sont allés dans les cimetières, c'est incroyable.
L'ampleur, ils ont fait leur recherche. Ils ont fait leur recherche pour utiliser l'expression qui est populaire en ce moment.
Exactement. Puis c'était pas sur Google. Il a fallu qu'il aille dans les archives écrites. Donc la deuxième chose, c'est la petitesse du phénomène. Donc c'était moins de 1% de la population. Par exemple, les Noirs à Montréal, c'était 0,1%. La population montréalaise, c'était des esclaves noirs. Alors, ça crée une dynamique complètement différente. On ne peut pas dire que les Français sont moins cruels que les autres, puisqu'ils ont été extrêmement cruels face aux esclaves dans les Antilles françaises et en Louisiane. Ils ne l'ont pas été au Québec ou en Nouvelle-France, sûrement parce que les Noirs étaient tellement peu nombreux, ou les esclaves en général, qu'il n'y avait pas de risque de révolte. Ils n'étaient pas nombreux. Mmh. Ils étaient traités essentiellement comme des domestiques. Ils étaient pas, tu sais, on n'est pas des, il n'y a pas de grandes plantations au Québec. Donc, il n'y avait pas de nécessité pour en avoir des centaines. Alors, c'était surtout des domestiques qui étaient traités comme des domestiques. Et donc, là, la troisième grande surprise, c'est que dans le système de justice, parce que c'est là qu'on a le plus de notes, parce qu'ils prennent des notes.
Bien sûr.
Les esclaves étaient traités comme des citoyens, comme les autres, même s'ils étaient esclaves. C'est-à-dire que Ils étaient respectés comme témoins, ils mm-hmm. étaient respectés comme accusés, puis ils étaient même respectés comme plaignants. Alors là, justement,
oui,
il y a des
plaignants. Oui, ça c'est intéressant. Leur ouais. parole avait pas moins de poids que quelqu'un qui avait qui était blanc. Et tu cites un cas en particulier où il y a un noir a eu gain de cause contre un blanc.
Oui, ben, c'est arrivé assez souvent. Et là, ben, dans ce cas-là, c'est dans le post-esclavagisme, c'est-à-dire, et ça, c'est l'autre élément qui est intéressant, c'est que l'esclavage s'éteint au Québec vers 1795-1800, selon Frank McKay, qui regarde ça de près, de la façon la plus humaine en Amérique du Nord. C'est-à-dire 30 ans avant le Haut-Canada ou la Nouvelle-Écosse, et 60 ans avant la proclamation d'émancipation américaine, aussi 30 ans avant que l'Empire britannique ne déclare que c'était illégal. Et ça s'est fait de façon très particulière, parce que ailleurs, les esclavagistes, évidemment, c'était un investissement d'acheter un esclave. Mmh. Il coûtait à peu près plusieurs années du salaire d'un domestique. Hein. Alors ensuite, ça variait. Et donc, lorsqu'un esclave était affranchi, bien évidemment...
C'était une perte financière.
Ça,
oui.
C'est ça. Mais au Québec, on a dit, tant pis pour vous. dans le Haut-Canada, il y a une loi qui a été passée pour au moins pour protéger les droits acquis des esclavagistes pour une génération. Et lorsque les Britanniques l'ont abolie, ils ont compensé les esclavagistes. Au Québec, non. Au Québec, c'est des juges anglais, parce que là, on est dans le Bas-Canada, dans le régime anglais, mm-hmm. qui se mettent à dire, dès qu'il y a une affaire devant eux sur la vente d'un esclave, parce que ça arrivait que deux esclavagistes n'étaient pas contents, l'esclave avait été vendu, mais pas au bon prix, ou je ne sais trop, les juges disaient, mais de toute façon, ça n'existe pas, l'esclavage. Et donc, l'esclave était libéré.
Incroyable.
Et là, évidemment, ça s'est répandu entre les esclaves montréalais qui ont tous dit, bon, alors, je quitte mon maître. Et en quelques années, c'est disparu. Alors, peu après, un des leaders noirs de Montréal, qui s'appelle Alexander Grant, justement sur un cas d'esclavage, est allé voir un juge pour lui dire « cette personne doit être libérée ». Et le juge anglais, blanc, évidemment, lui donne un coup de pied à Grant, qui est noir. Grant le poursuit. Alors, son avocat, c'est un patriote, parce que là, on est dans la période des patriotes, et le jury blanc, évidemment, 12 blancs, donne raison à Grant et ils imposent une amende au juge blanc
qui a donné le coup de
anglophone.
Pied. Ouais.
Alors, imagine...
Fascinant.
Ouais. Imagine au Mississippi, je veux dire...
Impensable.
Il ne se serait même pas rendu au poste de police, là, c'est M. Grant, pour faire sa plainte. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de mauvais traitement. Il y a eu des mauvais traitements, évidemment, il y a eu des viols, il y a eu tout ça, là. Ça, c'est sûr. Bon, pour les esclaves, pour les domestiques aussi, remarque, il y en a qui étaient maltraités. Et le caractère répugnant de l'esclavage est absolu. Bon, mais si on veut comparer, il y a un moment où, d'ailleurs, les Noirs du Québec... veulent une des pires choses qu'on peut leur dire, c'est que ils vont être envoyés aux États-Unis ou dans les Antilles.
Les traitements seront, voilà, c'est ça, les traitements seront bien pires là-bas. Mais tu aurais fait un excellent professeur d'histoire, et j'apprécie que tu donnes évidemment à chaque fois le crédit aux historiens qui se sont penchés sur tous ces documents pour en tirer les conclusions que tu communiques. Ce qui est intéressant dans ton texte, qu'on retrouve sur laboitealizée.com, c'est que ça change la perspective. C'est-à-dire que le discours qu'on entend depuis plusieurs mois est un discours culpabilisant. Ça veut pas dire qu'on doit pas, en effet, se sentir en partie coupable de certaines exactions qui ont été commises par nos ancêtres. Mais quand on compare, on peut aussi dire, ben oui, il y a des choses terribles qui se sont produites, mais premièrement, le blâme est à partager entre plusieurs communautés, ce que tu nous dis, par exemple, sur les Autochtones. Et aussi, au final, on peut dire quand même que par rapport à plein d'autres sociétés, c'est peut-être ici, au Bas-Canada, au Québec, que on a été les moins pires Donc, ça change totalement la perspective.
Oui, ça change la perspective. Maintenant, ça ne nous empêche pas de nous poser la question, est-ce que dans la société actuelle, donc à 220 ans de distance, est-ce qu'il y a des choses qu'on a héritées de notre période esclavagiste et qui méritent redressement?
Bonne question.
Et la réponse? Et la réponse que donne, parce que c'est clair, c'est une question, la réponse est oui aux États-Unis. Est-ce que c'est oui ici? Ben, Frank McKay, qui a regardé ça, il dit, en fait, on se rend compte qu'il n'y avait pas de profilage racial sur les arrestations et les peines à l'époque. Ben, aujourd'hui, il y en a du profilage racial. Ça veut dire que sur ce point-là, ça s'est empiré depuis. Alors, c'est pour ça que je conclue, ben là, ça, c'est notre problème. On n'a pas hérité ça de nos ancêtres. Nos ancêtres ne faisaient pas de profilage racial. Ouais. Alors donc, là, c'est vraiment pas une rémanence de notre période d'esclavagisme. On peut dire, évidemment, que le fait qu'on ait eu des esclaves a créé dans la culture populaire une idée qu'il y avait une inégalité dans les races et que ça, ça traverse le temps et qu'on a encore des rémanences de ça. C'est un argument qui est solide. Mais sur le traitement individuel des Noirs, non. Il y a un autre aspect dont, pour lequel il n'y a pas de livre, c'est la participation des Québécois, comme d'autres, au chemin de fer souterrain, qui permettait à des dizaines de milliers de Noirs esclaves de quitter les États-Unis pour se réfugier au Canada. Et le Québec fait partie des lieux d'arrivée. Alors, Philippsburg,
ouais, les cantons de l'Est,
Richelieu, Montréal. Exact. Et ça, donc, ça veut dire qu'il y a des Blancs, des Noirs, des Anglophones, des Francophones au Québec qui ont participé à ce mouvement d'accueil et d'affranchissement des Noirs américains. Ça aussi, ça fait partie de notre histoire. Il faut regarder le côté sombre et le côté lumineux de notre rôle dans l'esclavage et dans la fin de l'esclavage et dans la protection des esclaves.
Et d'ailleurs, je te rappelle, tu te souviens de la fameuse campagne de commandite avec les fameuses minutes du patrimoine là pour nous vanter à quel point le Canada est un pays magnifique. Mais il y avait une minute du patrimoine sur le chemin de fer souterrain, le Underground Railroad, où on voyait une esclave noire arrivée au Canada grâce justement à la complicité bienveillante de Canadiens. Donc, t'as tout à fait raison. C'est tout un pan de notre histoire qui est lumineux. Il y a des côtés sombres, bien sûr, mais ton article vient rééquilibrer les choses. Très rapidement, Jean-François, la réaction à ton texte, ça a été quoi?
La réaction a été... Enfin, globalement, très positive. Évidemment, beaucoup de réactions sur le site du Devoir. Et moi, j'ai trouvé que... il y a des gens comme Francis Dupuis-Déry qui est intervenu en disant « Bon, le prochain texte de l'idée, ça va être... » Parce que celui-là, s'intitule « Tous esclavagistes ». Il dit « Le prochain, ça va être « Tous colonisateurs ». Il va nous expliquer que finalement, la colonisation britannique au Québec était très gentille si on la compare à l'Inde, etc. Mm. Et puis, ce à quoi je lui ai répondu, parce qu'il m'arrive de répondre aux commentaires, même sur le Devoir.
C'est bien.
Ben, j'ai dit, c'est pas possible parce que on sait, la personne qui nous a dit que l'oppression britannique au Québec était pire que dans les autres colonies britanniques.
C'est les Britanniques eux-mêmes.
C'est Lord Durham.
Lord Durham, ben oui.
Oui. Le rapport Durham, il est scandalisé de la façon dont les Britanniques au Québec ont opprimé les Canadiens français. Et il est tellement scandalisé que c'est pour ça qu'il dit, il n'y a pas d'avenir pour les Canadiens français. La seule chose qu'on peut faire, c'est les assimiler. C'est par empathie.
Passionnant.
Quand tu lis le rapport, c'est par empathie. Bon, empathie mal placée.
Ah bon, alors, es-tu en train de réhabiliter Lord Durham? Écoute, ce sera peut-être un commentaire pour une prochaine chronique, mais en tout cas, j'encourage tout le monde à aller lire ce texte-là, parce que, écoute, c'est vraiment un changement de perspective. C'est vraiment un texte marquant. Merci beaucoup, Jean-François. Puis, on se retrouve vendredi. Non, oui, c'est ça, vendredi. Tu es là avec nous tous les vendredis. Je rappelle que tu es auteur récemment de « Guerre froide sur les espions étrangers au Québec ». Toutes les informations sur tes textes et tes livres se retrouvent sur la boîte alizé.com. Merci Jean-François.
Merci Sophie. Au revoir.
Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
Vous écoutez
Sophie Durocher.
Lundi, le ministre de la Justice du Canada, David Lametti, a annoncé l'entrée en vigueur de modifications à la loi sur le divorce. C'est le premier grand changement apporté à ces lois-là depuis plus de 20 ans. Pourquoi ça a pris tant de temps et quelles seront les répercussions de ces modifications-là? On va en parler avec quelqu'un avec qui j'adore parler parce que c'est une excellente pédagogue en toutes ces questions qui ont à voir avec le droit de la famille. C'est Maître Sylvie Schirm, elle est avocate spécialisée justement en droit de la famille. Maître Schirm, bonjour.
Bonjour Sophie, bonjour.
Est-ce que c'est vraiment important, majeur, ces changements annoncés lundi, et quel impact ça pourrait avoir sur des familles québécoises?
Oui, c'est des changements majeurs et cela a un impact sur les gens mariés. Hein? C'est seulement les gens mariés, non pas les conjoints de fait. Alors, un des gros changements, c'est la question du langage. On ne parle plus de garde et de droit d'accès parce qu'on a considéré que ces notions-là étaient toujours comme un peu gagnant-perdant. J'ai la garde de mon enfant ou j'ai perdu la garde de mon enfant. Alors, on change ces mots-là par temps parental. Donc, on ne parle plus de partager, pas partager, garde, droit d'accès. On parle vraiment de l'horaire de vie de l'enfant qui doit être établi selon un horaire. Et il y a toutes sortes de possibilités de calendrier possible pour établir l'horaire de vie de l'enfant. Donc, c'est du temps parental quand on parle. Alors, on a vraiment arrêté ça et c'est du nouveau aussi pour les praticiens parce qu'on est habitué de parler de garde et droit d'accès. Maintenant, on doit parler de temps parental.
Mais c'est intéressant parce que c'est pas juste une question de vocabulaire, c'est la mentalité qu'il y a derrière. J'ai l'impression, et corrigez-moi si je me trompe, Maître Schirm, que c'est aussi une façon de placer encore plus l'enfant au cœur des préoccupations.
Définitivement, et c'est le but premier de cette loi-là, de cette réforme-là, à plusieurs niveaux, effectivement, tant mieux. Alors, on arrête de parler de garde et droit d'accès, et on a donné une définition extrêmement détaillée de qu'est-ce qui est le meilleur intérêt de l'enfant et qu'est-ce que les tribunaux doivent considérer. Vous savez, au Québec, on a dans notre Code civil la notion du meilleur intérêt de l'enfant qui doit être appliquée dans les jugements, mais qui est quand même assez large et général comme terme, tandis que maintenant, dans la loi sur le divorce, on donne toute une liste des facteurs qui doivent être considérés, que ce soit le comportement des parents pour permettre à l'autre parent d'avoir accès, la question des soins, la question de la santé, les notions culturelles, etc., religieuses, etc. Alors, on a toute une liste détaillée qui va forcer les juges à vraiment analyser chaque élément avant de rendre une décision pour le meilleur intérêt de l'enfant. Et dans cette analyse, dans cette liste d'épicerie, si vous voulez, de meilleur intérêt de l'enfant, il y a également la question de la violence familiale. Ce qui est très important dans cette loi-là, c'est qu'on a défini la violence familiale, on a donné une définition et on a donné aussi les critères qui doivent être considérés par les tribunaux. Et quand on parle de violence familiale, on ne parle pas seulement des mauvais traitements ou des coups là, de l'aspect physique, mais également les abus sexuels, les menaces de tuer quelqu'un, l'harcèlement, les mauvais traitements psychologiques, l'exploitation financière, les menaces de tuer ou de blesser, par exemple, un animal domestique, parce que malheureusement, cela arrive également. Alors, tout ça est considéré assez en détail, qui fait partie de la notion du meilleur intérêt de l'enfant. Donc, les tribunaux, quand ils sont confrontés à des dossiers avec la violence familiale, ils seront obligés d'analyser ces aspects-là avant de rendre une décision.
J'ai envie de dire, de façon un petit peu sarcastique, un petit peu cynique, la loi arrive au 21e siècle.
C'est toujours très long. Le système judiciaire, là, les roues tournent très lentement. Et souvent, avant qu'on s'adapte et qu'on se mette à jour par rapport à la réalité sociale, les années passent. Alors ça, c'est certain, c'est une réalité, donc ça a pris beaucoup de temps. Le problème que nous avons au Québec, c'est que tout ça ne s'applique pas aux enfants des conjoints de fait. Parce que notre loi, le Code civil n'a pas été modifié, donc présentement, techniquement, les enfants dont les parents ne sont pas mariés ne puissent pas bénéficier de ces protections-là qui sont dans la loi sur le divorce. Alors, il va falloir vraiment bouger parce que c'est inconcevable que à cause du fait que les parents sont mariés ou non, les enfants n'ont pas les mêmes protections. C'est oui, un débat qu'on a depuis longtemps au Québec, là.
Ben oui, depuis Éric et Lola, oui. Depuis la cause célèbre Éric et Lola. Mais en même temps, c'est une aberration, Maître Schirm, si je peux me permettre. C'est-à-dire que normalement, tout enfant qui naît sur le territoire canadien devrait avoir les mêmes droits, peu importe une décision que ses parents ont prise ou que les parents ont prise ou pas. Normalement, un enfant, ses droits fondamentaux devraient pas être à géométrie variable selon que les parents ont dit oui, je le veux ou pas. C'est quand même une aberration. Donc, concentrons-nous sur ce qui a été décidé, en tout cas lundi. Ça va prendre combien de temps, Maître Schirm, avant que ce qui est décidé, donc, à Ottawa, soit applicable? Est-ce que ça prend effet le jour même où la loi a été dictée ou il faut attendre
C'est déjà en vigueur. Parfait. Donc aujourd'hui, si je ouvre un dossier de divorce pour quelqu'un, ben je dois cesser de parler de garde, je dois parler de temps parental, je dois vérifier si quelqu'un vient me dire je suis victime de violence conjugale, ben je dois regarder toutes les dispositions législatives à cet égard-là. Alors c'est déjà en vigueur. Ça a été reporté, ça devait l'être en juillet, mais à cause de la pandémie, combien des choses cela a été reporté. Est-ce que le Québec va emboîter le pas? J'espère que oui. Moi, je vous dirais que je ne serai pas gênée de plaider ces principes-là, même pour les enfants des conjoints de fait, mais le fait demeure que la loi au Québec ne l'a pas encore, n'a pas encore suivi ces principes-là qui ont été débattus pendant assez longtemps. Alors, ça prend du temps, mais il y a eu beaucoup de consultations, etc., avant qu'on fasse une réforme d'une loi sur le divorce.
D'accord. Alors, revenons concrètement sur ce que ça signifie quand on arrête de parler de garde ou de garde partagée et qu'on parle de temps parental. Donc, ça change quelque chose, par exemple, au point de vue des calculs. Parce que, bon, l'importance de ce qu'on appelait avant la garde, c'est qu'évidemment, ça a des conséquences financières. Si on verse une pension et que l'enfant est 50% avec maman, 50% avec papa, ben là, il n'y a pas d'argent qui est versé. Si c'est 70% avec maman, 30% avec papa. Donc, ça a des incidences quand même importantes. Est-ce que le changement de vocabulaire a aussi une incidence financière sur les pensions?
Non, parce qu'on va quand même calculer le nombre de jours. Là, présentement, la façon que cela fonctionne, c'est que c'est au Québec, parce qu'on applique les tables du Québec, même pour les gens qui sont mariés. Alors, à ce moment-là, on va compter le nombre de jours, si vous voulez. Oui. Ce que, vous savez, en droit de la famille, ça fait longtemps, on avait dit, c'était peut-être pas une bonne idée de faire le lien de la pension avec le nombre de jours, parce que cela cause aussi des conflits, parce que parfois, pour une journée de plus ou une journée de moins, les gens s'obstinent, parce que la pension en garde partagée est coupée en deux. Hein. C'est vraiment, il a quand même un impact. Alors, la pension alimentaire est coupée en deux en garde partagée. Quand c'est plus de 30%, on donne un petit rabais, on va tenir compte de ça. Alors, il y a des fois des débats qui se font. Ici, ça va pas nécessairement changer ça parce que ça va être l'horaire, ça va être le temps parental qu'on va regarder, combien de jours. Et ça peut être n'importe quoi. L'avantage de ça, c'est que si quelqu'un vient voir, me dit, mais moi, je veux absolument la garde partagée de mon enfant, je vais lui dire, ben ça n'existe plus, cette terminologie-là. Oubliez ça, oui. Je veux absolument la garde partagée. Regardons quel est l'horaire de vie qui vous convient, d'abord qui convient à l'enfant, puis votre disponibilité, comment on peut organiser l'horaire de vie de cet enfant-là. Alors, ça met de côté cette question-là. Donc, c'est vraiment positif pour le changement des fois de langage a un impact là, sur l'intention des gens. Mais au niveau de la pension alimentaire, cela n'est pas modifié.
D'accord. Je veux juste revenir parce que ça m'a traumatisée, ça m'a troublée, ça m'a bouleversée quand vous avez parlé tout à l'heure des différentes éléments de ce qu'on appelle la violence familiale et vous avez parlé, entre autres, de menaces de tuer les animaux domestiques, puis vous avez dit ça arrive des fois, en avez-vous déjà eu? Sans, évidemment,
Oui, j'ai déjà eu, puis puis la crainte de ça, il y a des femmes victimes de violence qui ne vont pas aller en maison d'hébergement parce qu'ils savent que si elles partent avec les enfants, elles ne peuvent pas amener les animaux domestiques. Alors, parce que la maison d'hébergement ne peut pas prendre les chats et les chiens. Alors, à ce moment-là, il y a des femmes qui ne sont pas parties parce qu'elles craignaient sérieusement que lors de son départ, monsieur allait s'en prendre aux animaux. Des enfants, là, on s'entend, parce que c'est les animaux des enfants aussi, là. Alors, Alors, ça, c'est vrai. À un moment donné, l'Ordre des vétérinaires avait un programme, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais il y avait un programme où est-ce qu'ils acceptaient, les vétérinaires acceptaient de prendre les animaux domestiques des femmes qui allaient en maison d'hébergement de façon temporaire pour qu'elles puissent partir. Mais c'est exact que on le voit, c'est pas pour rien que c'est indiqué dans la loi, c'est parce qu'on le voit que les hommes violents vont se prendre aux animaux domestiques. En sachant que ça va atteindre, ou en sachant où ils vont faire des menaces. Ah, tu t'en vas, tu verras plus Pitou Minou, là. Tu vas voir qu'est-ce qui va arriver. Sans compter le fait que ces hommes-là sont souvent aussi violents envers les animaux.
Madame, Maître Schirm, je suis bouleversée parce que vous me racontez. Vous, comment vous faites? On va sortir un petit peu de la loi là édictée lundi comme femme, mais comme être humain. Vous êtes confronté constamment dans votre pratique à c'est de la cruauté mentale. Comment on fait pour garder un équilibre à travers tout ça, Maître Schirm?
Pour commencer, je me sens privilégiée que je puisse aider les gens dans des moments comme ça. Vraiment, pour moi, c'est un privilège de participer ou d'aider, de soutenir des gens dans des moments qui sont souvent les plus difficiles de leur vie. Alors, je vais tout faire pour protéger dans la mesure que je peux. On apprend avec les années qu'il y a une limite à qu'est-ce qu'on peut faire. On n'est pas là pour vivre la vie de notre client ou notre cliente. On est vraiment là pour les soutenir et les aider et faire le mieux dans les circonstances. Oui, des fois, c'est difficile, mais je peux vous dire que c'est très enrichissant qu'est-ce que je fais comme travail je suis passionnée de ça depuis de nombreuses années. Alors, je trouve fascinant l'être humain. Alors, je m'ennuie jamais en faisant du droit de la famille, puis on s'ennuie pas, un, à cause des gens qu'on rencontre, qui sont souvent extraordinaires, mais deuxièmement aussi à cause des changements dans la loi. Alors, c'est toujours en mouvement. Je me considère chanceuse, mais aussi, effectivement, j'ai appris avec les années comment, des fois, faire la part des choses, à quel moment faut fermer la porte, quel moment faut prendre des vacances, des congés, pour justement un peu s'éloigner, puis se refaire des énergies pour continuer.
Je dis ça parce que d'un point de vue personnel, c'est juste drôle parce que l'été dernier, qui a été un été tellement difficile, on s'est croisés, vous et moi, à un moment donné, à la terrasse d'un bel hôtel. C'était une belle journée ensoleillée, une belle journée d'été. Puis je me disais, oh mon Dieu, elle le mérite tellement, Maître Schirm, avoir des horreurs et des histoires difficiles tous les jours. Alors, on referme la petite parenthèse personnelle. Je veux revenir donc à cette loi. Bon, on l'a mentionné, évidemment, au regard de la loi, il reste encore une différence énorme entre les couples mariés et les couples qui sont des conjoints de fait. Qu'est-ce que ça va prendre pour que il y ait des modifications aux lois, autant provinciales que fédérales, qui reflètent vraiment et qui empêchent qu'il y ait ce double standard, ce deux poids, deux mesures?
Bien, écoutez, à ce que je sache, présentement, le ministre de la Justice travaille sur le projet de la réforme. Vous savez, on a eu le fameux jugement d'Éric Elola en 2013. En 2015, Dr. Alain Roy, avec le comité consultatif, a produit un document qui était un guide incroyable là, pour la réforme du droit de la famille, qui malheureusement a été totalement tabletté. Lorsque la CAQ est arrivée au pouvoir, une de leurs engagements, c'était justement par Maître Sonia Lebel de entamer la réforme. Il y a eu des consultations qui ont été faites, mais c'est lent, c'est certain que c'est lent. Et présentement, à ma connaissance, le travail se fait. Semble-t-il que j'ai lu quelque part hier que le ministre de la Justice travaille sur la réforme. Quand est-ce qu'on va aboutir? J'ose croire que ça va être bientôt cette année. Je comprends qu'avec la pandémie, tout est des fois ralenti, mais à un moment donné, il faut vraiment avancer parce que ça affecte beaucoup de couples. Puis on est au Québec, on est les champions des conjoints de fait. Alors une réforme là à plusieurs niveaux là est vraiment essentielle. Et j'ose croire qu'on va avoir des nouvelles cette année. C'est mon espoir.
C'est ce qu'on souhaite. Alors, vous l'avez mentionné, évidemment, on peut pas s'en sortir, on est en pleine pandémie. Juste un mot en terminant, moi, je sens beaucoup ces jours-ci que tout le monde est à bout. Puis je dis à bout, vraiment, parce que je mets plusieurs T là-dessus, là, c'est vraiment, tout le monde est, on en a plein notre chapeau. Est-ce que vous la ressentez aussi chez vos clients des deux bars?
Oui. On le ressent partout. On le ressent chez nos collègues, on le ressent chez les gens. on le ressent chez les juges, tout le monde, on sent un stress additionnel qui s'ajoute à, dans des dossiers qui sont un peu déjà stressants, mais quand même, on le sent que les gens trouvent ça difficile, et c'est certain que la tension, le stress est à son plus haut niveau présentement. Tout le monde dans la pratique, là, en droit de la famille, on s'en parle de ça, autant chez nos clients que même chez les avocats, et évidemment chez les juges. Et énormément de changements pour nous aussi, parce que là, on plaide souvent par de façon virtuelle. C'est pas du tout la même chose que d'être en présence. J'ose croire que ça va revenir, le présentiel, parce que c'est très, très difficile de plaider ça derrière un écran. La dynamique est pas du tout la même. Alors, c'est énormément de défis qu'on a depuis un an. Alors, oui, il y a des choses qui ont aidé. Il y a des choses qui se sont faites dans le système judiciaire que ça aurait pris 5 ans, puis on a dû le faire dans 2 mois à cause de la pandémie. Mais il y a d'autres choses qui sont difficiles. Alors, le niveau de stress de tout le monde est très élevé.
Bon, ben écoutez, merci beaucoup, puis comme d'habitude, vous avez été une excellente vulgarisatrice, une excellente pédagogue pour nous expliquer tout ça, mais je vais quand même retenir de notre entretien la cruauté de certains conjoints, et puis pas juste une cruauté envers leur ex-conjointe là, mais une cruauté aussi envers les enfants là, de menacer de s'en prendre aux animaux domestiques. C'est vraiment c'est inouï, hein, c'est incroyable jusqu'où l'être humain est capable d'aller. C'est vraiment triste, mais heureusement, des gens ont des maîtres chirmes dans leur vie pour plaider leur cause. Ils sont bien chanceux. Merci, c'est toujours un plaisir de vous parler, Maître Chirme.
Carrément, merci.
Maître Sylvie Chirme, donc, est avocate spécialisée en droit de la famille, puis vraiment, à chaque fois, hein, elle nous explique ça, c'est clair, c'est concis, c'est vraiment... elle est formidable, on l'adore.
Culture aux affaires publiques.
Vous écoutez
Sophie Durocher,
Cube Radio.
In the norms and notions of what just is, isn't always just is.
Au moment de l'inauguration de Joe Biden, beaucoup de gens ont été, vraiment sont tombés sous le charme de la jeune poétesse Amanda Gorman, qui a livré un texte qui s'intitule « The Hill We Climb ». Tout le monde était bien impressionné de sa prestance, et ce texte-là, « The Hill We Climb », est traduit donc dans différentes langues un petit peu partout à travers le monde. Sauf qu'il y a eu une problématique, un scandale, une controverse qui a éclaté dans les Pays-Bas, parce que la personne qui devait traduire ce texte-là, ce poème, ben il se trouve que c'est quelqu'un qui est blanc. Et ben Amanda Gorman, elle est noire. Puis là, il y a des gens, des militants qui ont commencé à dire, ben non, ça peut pas être une blanche qui traduit le texte d'un noir, faut que ce soit une noire qui traduise le texte d'un noir. Ça a provoqué beaucoup de réactions, à tel point que donc la personne qui devait traduire s'est désistée en disant, oh, regardez, là, ça a provoqué un tel tollé, je préfère aller planter des tomates plutôt que de traduire ce texte-là. Est-ce que c'est pas le signe d'une nouvelle forme de racisme? C'est ce que pense en tout cas Sylvain-Claude Filion. Il est auteur, journaliste indépendant, et il a écrit dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, une lettre dans la section « Faites la différence ». Ça s'intitule « Racisme 2.0 ». Sylvain-Claude Filion, bonjour.
Bonjour Sophie.
Ben, quand on dit à quelqu'un « tu ne peux pas faire telle chose à cause de la couleur de ta peau », c'est du racisme?
Pour moi, oui. Essentiellement, vous aviez bien résumé l'histoire, c'est une journaliste du Volkskrant, qui est le quotidien national aux Pays-Bas. Elle se définit aussi comme une activiste, elle est la fondatrice de la plateforme Diversity Rules, et c'est elle qui a publié une lettre. Et ce geste-là est à mes yeux tellement contre-productif, parce que au départ, la traductrice, la poëtesse et écrivaine Marieke Rijnveld avait été choisie par Amanda Gorman traduire. L'éditeur était d'accord, tout le monde est content, tout va bien. Et là, cet activiste, ma réaction, ce serait « de quoi je me mêle ?»
Ouais. Alors il faut dire, il faut expliquer ce qu'elle a dit, cette militante. Donc elle a dit Marieke ne peut pas traduire parce que elle ne comprend pas c'est quoi la réalité d'une femme noire à cause de la couleur de sa peau. En gros, je résume là, mon hollandais est pas très bon.
Elle a dit que ça suscitait de la douleur, de la frustration et de la colère. Ouais. Et elle souligne en plus que Marieke Rensveld est non-binaire, comme si ça avait rapport. Et quand on s'introduit comme ça dans un dossier où on n'a pas d'affaires, pour moi, c'est une forme de vandalisme intellectuel.
Mais ce qui est intéressant, c'est que moi, je croyais que les gens qui étaient antiracistes étaient vraiment antiracistes, c'est-à-dire qu'ils dénonçaient la discrimination, ils dénonçaient le fait que certaines personnes n'aient pas des opportunités professionnelles à cause de la couleur de leur peau. Mais si on dit à quelqu'un « tu ne peux pas traduire ce texte-là parce que tu es blanc », ben on fait de la discrimination. On est en train d'enlever un gagne-pain à Marieke, à cette écrivaine hollandaise là.
Oui, puis qui est pas sortie d'une boîte de Cracker Jack là. Cette jeune fille là. D'ailleurs, elle avait été choisie parce qu'elle avait connu la célébrité très jeune, comme Amanda Gorman. C'est pour ça qu'il y avait un match parfait. Elle a eu le Booker Prize l'an dernier. C'est pas de la.
Oui, le International Booker Prize. Ouais.
Et là, c'est un peu le système de la police de bien-pensance qui vient s'infiltrer dans des choses où on n'a pas d'affaires. Écoutez, moi, ça me fait penser à la petite controverse qu'il y a eu récemment avec Maxime Olivier Moutier et son éditeur. Mm-hmm. Et ça me fait même penser aux employés de Hachette à New York qui ne voulaient pas qu'on publie la biographie de Woody Allen. Et ce qui est le plus désolant, c'est que comme l'éditeur néerlandais qui avait embauché Rensveld, et comme Hachette, les gens se mettent à genoux. Alors voilà. Que quand une Janice Dull, qui je le répète, et je pense qu'elle est plus activiste que journaliste, qui parle de sa douleur. Écoutez, franchement, là, est-ce qu'il y a de quoi souffrir parce que la traductrice n'est pas blanche? Moi, je pense que c'est aussi une absence d'empathie, et ça, c'est une caractéristique de la génération des enfants rois.
Ben ça, vous allez loin quand même, Sylvain Claude. C'est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, cette génération qui est habituée donc à ne jamais se faire dire non, leur moindre caprice, dès qu'ils expriment le moindre caprice, les autorités obtempèrent, ben ça nourrit ça. C'est-à-dire qu'en fait, il suffit qu'il y ait une éditorialiste qui dise « Moi, ça me fait de la pépène que le texte soit traduit par une femme blanche », puis tout le monde se met à genoux. Donc, je veux dire, ça lui donne un pouvoir complètement démesuré à cette femme-là.
Oui. Et je vais préciser le lien que je fais avec les enfants rois, parce que je vais recevoir des roches. C'est quand tu as une enflure de mots, comme la douleur, ou des arguments comme « elle ne peut pas avoir le ressenti », c'est de l'enflure verbale, là, ces mots-là. C'est pas parce que quelqu'un n'est pas de la même race que ça... C'est même pas censé paraître dans un livre. J'ai fait... écoutez, Dany Laferrière. Oui. Une dizaine de livres ont été traduits en anglais. La plupart, ça a été fait par David Hommel, qui est un Américain établi à Montréal depuis longtemps. Oui, oui. C'est lui qui a écrit la version « How to make love to a Negro ». C'est lui qui a traduit « L'énigme du retour ». Ce type-là est un homme blanc. Est-ce qu'il y a eu un drame? Non.
Mais non.
Parce que c'est de la littérature.
Oui, puis aussi, parce que, bon, moi, ma mère a été traductrice pendant des années, elle traduisait du français de l'anglais au français, et, je veux dire, elle a fait des études, elle est allée à l'université, c'est un métier, être traducteur, donc, à la rigueur, on aurait pu reprocher à Marieke de ne pas être une traductrice, de ne pas avoir fait des études, j'aurais compris, j'aurais dit, ben oui, ok, c'est parfait, prenez quelqu'un qui est un traducteur, donc, prenez-vous-en à elle pour ses compétences. Ne vous en prenez pas à elle pour la couleur de sa peau.
De sa peau, exactement.
Voilà. Et aussi que, bon, vous avez écrit un livre, la biographie, donc, de Béatrice Picard. Ben, vous êtes un homme. Ben là, comment ça, vous êtes un homme, vous avez écrit la biographie d'une femme? C'est quoi ça, cette affaire-là, oui. Sylvain Claude?
Oui, puis j'ai écrit d'ailleurs dans le texte qui a paru aujourd'hui, ça va être quoi les prochaines dérives là? On va dire qu'un homme ne peut pas traduire écrit un livre écrit par une femme. Ou écoutez, j'ai même un autre exemple qui m'est venu en tête. Il y a une vingtaine d'années, j'ai fait la traduction française d'une biographie de Shania Twain.
Ah oui.
7 jours à l'époque.
Ouais.
Et là, je pense que la plupart des gens le savent, Shania Twain a des origines autochtones de la tribu Ojibwe. Imaginez qu'en 2021, on me propose de faire la traduction. Moi, je craindrais qu'une personne autochtone des Premières Nations dise « Je n'ai pas le droit de traduire la biographie de Shania Twain parce que je ne peux pas ressentir le ressenti des Autochtones. »
Oui, ou même, regardez Michel Jean, là, qui connaît vraiment un succès extraordinaire et tout à fait mérité avec son livre Koukoum. Bon, ben, je veux dire, il est de descendance inoue. Bon, alors, est-ce que ça veut dire que quand les livres, c'est peut-être même déjà fait, là, les livres de Michel Jean vont être traduits, je sais pas, moi, en allemand ou en japonais, qu'il faut que le traducteur ou la traductrice soit aussi d'origine autochtone. Je veux dire, sort pas. Et c'est aussi, le problème, Sylvain Claude, est plus large que ça. C'est que il y a un mouvement au cours des 50 dernières années ou des 60 dernières années où on a dit, on arrête de regarder les individus selon les étiquettes. On arrête de regarder les individus selon la couleur de leur peau, leur orientation sexuelle et tout ça. On ne les considère que comme des individus. Or, ce à quoi on assiste depuis les derniers mois, les dernières années, c'est le mouvement inverse. C'est le retour des étiquettes. On n'est plus considéré comme un individu. On est considéré comme, bon, toi, t'es un gay, toi, t'es non-binaire, toi, t'es d'origine autochtone, toi, t'es ci, toi, t'es ça. Mais c'est le contraire du mouvement d'émancipation qu'on a connu les dernières années.
Bon, je pense qu'il faut préciser que c'est une frange activiste. Ce sont toujours eux qui font le plus parler d'eux dans les médias. Vous savez qu'il y en a au Québec, on les voit, c'est toujours les mêmes qu'on voit défendre la cause. Mais
ils sont souvent invités à Tout le monde en parle.
Oui, ouais, ici première, disons-le. Oui. Mais le problème, c'est cette espèce de militantisme à outrance qui fait que, dans le fond, ces gens-là exercent du racisme. Ce qu'on appelle le racialisme, pour moi, c'est simplement du racisme. Tu vas venir me dire que j'ai pas le droit de traduire un livre parce que je suis blanc, ben t'es raciste. C'est aussi simple que ça. Écoutez, que Victor Hugo soit blanc, noir, ou qu'il soit gay, hétéro, ou aux plantes vertes, moi, je m'en fous, c'est Victor Hugo qui m'intéresse.
Oui, ben vous citez Hugo, ce serait intéressant aussi de citer par exemple Alexandre Dumas, qui était, et ça peu de gens le savent, qui était lui-même, je pense qu'il était Carteron, c'est-à-dire que il était descendant de métis, et en fait on le voit quand on regarde les photos, les portraits de l'époque, mais c'était pas un homme blanc de plus de 50 ans, hein, il avait des racines, je pense c'était antillaise ou bon, martiniquaise, quelque chose comme ça là, ouais.
Oui, je pense que c'est son père qui était à moitié créole, et ou sa mère peut-être.
Son père est né à Saint-Dominique, en fait, qui est maintenant à Haïti. Donc, voilà, je suis en train de le vérifier au moment où on se parle. Mais je veux dire, c'est qu'à un moment donné, on finit plus aussi. Donc, pour traduire Alexandre Dumas, il faudrait trouver quelqu'un qui a exactement le même profil génétique que lui. Donc, tu le confies pas à un homme blanc. Tu le confies même pas à un homme qui est métisse. Il faut que tu le confies à un homme qui est carteron, c'est-à-dire qui a des ancêtres mélangés. Donc, un père métisse qui s'est marié avec une femme blanche. Je veux dire, on n'en finit plus.
Non, c'est quand on pousse le raisonnement à outrance, on n'en finira jamais. Et moi, ce qui me frappe, c'est que le fameux poème d'Amanda Gorman, de Hill We Climbed, c'est une ode à la réconciliation, à la lumière, à un monde meilleur. Et qu'est-ce que ça déclenche? Parce qu'écoutez, on s'entend bien là, que s'il n'y avait pas eu le texte de Janis Dull dans le Volkskrank, il n'y aurait jamais eu de controverse.
Jamais. Et, ben... J'en parle aussi dans ma chronique de ce matin. Je conclus en disant, parce qu'à un moment donné, dans son texte, elle dit au lieu de recourir à l'épée, on devrait bâtir des ponts. Ben, je veux dire, bâtissons-en des ponts. C'est certainement pas en faisant ce genre de controverse et en faisant de l'assignation raciale qu'on va réussir à régler ce genre de situation. Sylvain Claude, ben moi, je vous encourage à continuer à écrire des lettres dans la section Faites la différence, Journal de Montréal, Journal de Québec. C'est très bien argumenté. Ça a été un plaisir, en plus, de vous parler. Moi, je vous suis sur Facebook. On pense souvent pareil, mais là, de vous parler de vive voix, ça a été vraiment chouette.
Ben, je vous remercie beaucoup, Sophie. Moi aussi, je suis enchanté. Alors, à une prochaine.
Merci beaucoup, Sylvain Claude Filion, donc, qui est auteur, journaliste indépendant et qui donc signe cette lettre dans la section Faites la différence. Ça s'intitule Racisme 2.0. Et ben, c'est comme ça qu'on va se quitter. Je veux remercier Jean-François Roy qui est à la mise en onde, à la réalisation, William Boivin et Luc Fortin à la recherche. Et puis, ben, c'est comme ça que ça se termine. On est mercredi. Je vous donne rendez-vous demain, jeudi. Merci beaucoup d'avoir choisi Cube.